Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Hélène, je vous l'avais promis, une émission cathartique sur le Qatar aujourd'hui. Hélène, et on vous retrouve à 11h pour une autre page d'information. Comme vous le savez, il s'agit le Qatar d'un petit pays doté de 200 000 nationaux. Comment ce pays peut-il peser autant à l'échelle internationale? C'est un pays qui nous achète des avions, des rafales, des équipes de foot, des usines. Et vous, que pensez-vous du Qatar, de sa place, de la place qu'il occupe en France? Nous attendons vos questions au 01 45 24 7000 et sur notre compte Twitter Service Public FI. Vous savez à quoi on reconnaît un enfant de famille royale, à ce qu'on le prénomme Charlotte Elizabeth Diana. Comme vous le savez, les sociologues adorent les prénoms parce qu'ils permettent de mettre les modes en chiffres. Et oui, les prénoms suivent des modes, même s'ils sont donnés pour la vie, et ces modes sont quantifiables à la différence des jeans ou des mises en plis. Or, avec Charlotte Elizabeth Diana, précisément la famille royale tourne le dos à la mode pour montrer que c'est la famille royale. En premier lieu, deux des prénoms, Elizabeth et Diana, marquent une filiation lorsque la tendance actuelle est au contraire de ne plus respecter les règles de baptême en oubliant les habituelles traditions de nomination. C'est la raison pour laquelle les prénoms sont de plus en plus internationaux. En France, par exemple, il y a une vogue des prénoms italiens parce qu'ils s'émancipent des coutumes familiales ou nationales. Et puis il y a le Charlotte. Charlotte, un prénom délicieusement désuet, assez rare en Angleterre, puisqu'il occupe le 21e rang des prénoms donnés au Royaume-Uni. L'équation pour choisir un prénom de Royal Baby est donc la suivante. En trouver un qui incarne le pays sans pour autant être commun. À la différence des people ordinaires et du peuple ordinaire, le Royal Baby ne peut pas se prénommer Portnawak, impossible de l'appeler Talula Belle ou Scout la Rue. Il faut donc lui trouver un prénom à la fois sobre et distinctif, montrer qu'il respecte une tradition qu'il est censé incarner. En la prénommant Charlotte Elizabeth Diana, ses parents montrent que le roi n'est pas son cousin, mais son frère.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Et puis l'on parle du Qatar en France. Le Qatar en France, dans les représentations, souvent ça donne ça.
Le Qatar vous invite aux 29e journée du patrimoine. Découvrez les plus beaux monuments du Qatar. Le Louvre.
La Prince, elle a acheté le musée en 2005. Vous savez pourquoi? Parce qu'en 2004, la Louvre, elle n'était pas à vendre.
Découvrez également le célèbre Arc de Triomphe du Qatar.
La Prince, il l'a acheté par erreur. Il pensait que c'était un barbecue géant. Il fait griller ses merguez sur la flamme du soldat inconnu.
Découvrez également le palais de l'Élysée du Qatar.
La Prince, il le loue en ce moment à un petit gros. Il paye toujours son loyer en retard.
Et enfin, la célèbre Tour Eiffel du Qatar.
C'est le monument préféré du prince. La Prince, elle adore monter au 3e étage et faire pipi sur le tête des touristes japonais.
Les journées du patrimoine du Qatar, une exclusivité française.
Voilà, au moins vous comprenez pourquoi l'ambassadeur du Qatar en France n'est pas venu à l'émission. Mais nous avons en revanche Maurice Leroy. Bonjour, vous êtes député UDI, président du groupe d'amitié France-Qatar à l'Assemblée nationale. Vous nous expliquerez d'ailleurs en quoi consiste un groupe d'amitié, Maurice Leroy. À côté de vous se trouve mon confrère Nicolas Beau. Bonjour Nicolas Beau, vous êtes rédacteur en chef du site Monde Afrique et vous avez coécrit avec Jacques-Marie Bourget un livre intitulé Le vilain petit Qatar. Pourquoi vilain petit Qatar, Nicolas Beau?
Parce que on nous dit que c'est un ami qui nous veut du bien et on pense, Bourget et moi, qu'il nous veut beaucoup de mal.
On va expliquer en quoi, selon vous, cet ami nous veut du mal. Mais avant d'expliquer si cet ami nous veut du mal, Agnès Levallois, vous qui êtes consultante spécialiste du Moyen-Orient et chargée de cours à Sciences Po, expliquez-nous ce qu'est le Qatar, un tout petit pays peuplé donc de 200 000 nationaux avec 2 millions d'habitants en tout. D'où ce pays tire-t-il sa richesse?
Alors le Qatar tire sa richesse du gaz puisqu'il dispose des troisièmes ressources réserves en gaz au monde et donc ça lui permet d'avoir des ressources financières absolument colossales et qui lui donnent un poids diplomatique et économique bien au-delà de ce qu'il représente normalement puisque ce petit pays fait à peine 11 000 km². Donc vous voyez, c'est vraiment un tout petit pays qui est quand même coincé entre deux géants, qui est coincé entre l'Iran d'un côté et l'Arabie Saoudite de l'autre. Et d'ailleurs le Qatar partage même l'exploitation d'un champ plan gazier avec l'Iran, ce qui fait que le Qatar est toujours très prudent dans ses relations avec son grand voisin iranien qu'il doit absolument ménager. La particularité du Qatar quand même, d'abord c'était un État, un émirat qui est dirigé depuis le 19e siècle par la famille El Thani, et il y a 2 ans il y a une passation de pouvoir soft, si je puis dire, entre le père et le fils, puisque le père a laissé le pouvoir à l'été 2013 à son fils Tamim, qui est aujourd'hui donc un jeune émir pour les monarchies de cette région, et que là ça a été perçu comme une particularité. Et un autre point, c'est que le Qatar, qui donne une image d'un État très moderne, à certains aspects évidemment, en fait est complètement tiraillé, puisqu'on a une société extrêmement conservatrice, et ça je pense que ça sera intéressant d'y revenir. Donc il y a un grand écart permanent entre une image que veut projeter le Qatar à l'extérieur d'un État justement avec une passation de pouvoir en douceur, avec beaucoup d'argent, avec une volonté de développer des musées pour montrer que la culture fait partie intégrante de ce pays, et en même temps une société extrêmement conservatrice, et avec laquelle finalement quand même l'émir est obligé de composer pour éviter de se susciter des réactions en interne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, globalement, la population, les nationaux qataris vivent très bien au Qatar, ils bénéficient d'avantages absolument considérables. Je n'en dirai pas de même de la population immigrée, qui représente donc quand même 85 ou 90% de la population, qui elle vit dans des conditions extrêmement difficiles.
Puisque l'on considère que les nationaux bénéficient d'un pouvoir d'achat en moyenne 2 fois supérieur à celui des Français. Maurice Leroy, vous qui êtes le président du groupe d'amitié France-Qatar, pourriez-vous nous dire en quoi consiste un groupe d'amitié parlementaire? Parce qu'on entend souvent dire ça. Est-ce que vous touchez de l'argent du Qatar?
Oui, bonjour. Alors, d'abord, je partage tout à fait ce qui vient d'être exprimé par Agnès Levallois à l'instant. Je crois que ce qui est impressionnant, ce qui impressionne, moi, ce qui m'a impressionné d'ailleurs la première fois, comme les députés du groupe d'amitié qui sont allés à Doha la première fois au Forum international y assister, c'est assez impressionnant parce qu'effectivement, en fait, c'est un peu plus de 11 000 km², il faut se repenser, c'est l'Île-de-France, hein, tout simplement, pour que vos auditeurs aient une bonne image et qu'on soit un peu pédagogue. C'est l'Île-de-France avec une population qui a la population qatarienne, pas la population immigrée qui travaille, mais la population qatarienne qui est à plus de 100 000 dollars par habitant. Donc c'est très impressionnant. Donc, alors les groupes d'amitié, c'est assez simple, ce sont les relations internationales de l'Assemblée nationale, comme du Sénat d'ailleurs, hein, voilà. Donc vous avez un certain nombre de groupes d'amitié, et ce sont des échanges de parlement à parlement. Donc évidemment, il n'y a absolument aucun échange monétaire avec aucun groupe d'amitié. C'est strictement impossible.
Et
c'est,
pas d'argent. Vous allez au Qatar, non, par exemple, est-ce que vous payez votre chambre d'hôtel?
Que l'on aille au Qatar, que l'on aille à Moscou, que l'on aille à New York, quel que soit le pays, il faut se représenter les choses simplement, parce que encore une fois, vous avez demandé de faire de la pédagogie. Un groupe d'amitié, c'est comme une ville jumelée. C'est comme si vous jumeliez 2 parlements ou 2 sénats, etc. Qu'est-ce qui se passe dans les jumelages? Dans les jumelages, ben, vous recevez vos invités et en retour, par exemple, quand une délégation qatarienne vient, une délégation étrangère vient en France, c'est le budget de l'Assemblée nationale qui le prend en charge, et évidemment la réciproque existe, c'est-à-dire que quand nous sommes reçus nous-mêmes, eh bien, voilà, c'est l'État qui reçoit. Donc ça, ce sont des relations internationales. Il faut ajouter que le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, a mis en place un déontologue, et que chaque déclaration de voyage, par exemple, il y a un forum qui se fait à Doha prochainement, il va y avoir une délégation de 5 députés qui vont s'y rendre pour participer aux échanges à ce forum international, eh bien, il doit faire une déclaration auprès du déontologue. Et sachez-le, désormais, c'était pas comme ça avant, hein, mais désormais, il y a une réglementation très stricte à l'Assemblée, c'est tout à fait légitime qu'elle le soit. Tout cadeau, vous savez, il y a les échanges de cadeaux dans les délégations, nous on amène les médailles d'or de l'Assemblée nationale, en échange, vous recevez des ouvrages, bon, eh bien, tout cadeau supérieur à 150 € doit être déclaré auprès du déontologue.
Donc, un groupe, selon vous, transparent, eh bien, on va évoquer ce Qatar, ce vilain petit Qatar, on va écouter Nicolas Beau en parler tout de suite après Cliché Hélicon, un disque choisi par Stéphanie Texier et Thierry Dupin.
Service public, 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Hélicon. S'agit-il d'une contrepétrie? Service public sur France Inter. Nous parlons du Qatar. Nous en parlons en compagnie d'Agnès Levallois, qui est consultante spécialiste du Moyen-Orient et chargée de cours à Sciences Po. Notre camarade Thomas Chauvineau, qui est allé visiter le Qatar à Paris. Maurice Leroy, député UDI, président du groupe d'amitié France-Qatar. Et enfin Nicolas Beau, qui a publié avec Jacques-Marie Bourget « Le vilain petit Qatar, un ami qui nous veut du mal ». Pourquoi, Nicolas Beau?
Mais quand on a écrit ce livre avec Jacques-Marie Bourget, le Qatar était paré de toutes les qualités. Nicolas Sarkozy, qui était président, co-gérait toute sa politique arabe avec l'émir Al-Thani. Ils ont décidé ensemble d'intervenir en Libye avec les résultats qu'on voit aujourd'hui. Le pays était jugé moderniste, il ouvrait des universités, il avait une télévision Al Jazeera qui était... Et c'est vrai, dans les années 2000-2010, authentiquement pluraliste. Et surtout, le Qatar était porteur des valeurs du printemps arabe, puisqu'il a, avec les Américains, beaucoup fait pour, effectivement, déstabiliser notamment les régimes égyptiens et tunisiens et libyens.
Donc ça, c'est très bien de militer en faveur de la démocratie.
Oui, sauf que, et c'est là, on a voulu gratter un peu cette vitrine, et qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert un pays qui était totalement féodal. Il n'y a pas de parti, mais il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas d'association, il n'y a absolument aucune vie, même pas démocratique, mais pluraliste au Qatar. Les poètes sont condamnés à des 15-20 ans de prison quand ils attaquent le régime. Les homosexuels sont condamnés. Dans la chaîne Al Jazeera, qui a beaucoup évolué ces dernières années, on voit le prêcheur Al-Qaradawi qui a des propos plus que douteux et sur les femmes et sur les juifs, etc. Donc un pays
pas très fréquentable.
Pas très fréquentable. Deuxièmement, un pays quasiment impérialiste, puisqu'il a soutenu les frères musulmans à travers le monde, mais avec quel dessein? Pas la démocratie. En Tunisie, par exemple, le Qatar a acheté des hôtels, des mines, tout ce qu'il pouvait, et pendant les années 2012-2013, où les frères musulmans étaient au pouvoir en Tunisie, il était comme chez lui. C'était un protectorat tunisien. Et enfin, d'un mot, il a aidé, et c'est peut-être le plus grave, il a aidé des financiers, en tout cas très proches du pouvoir qatari, ont aidé les mouvements salafistes, lesquels mouvements aujourd'hui ont viré au djihadisme et ils portent une responsabilité énorme dans tout le terrorisme auquel on assiste aujourd'hui.
Jean-Christophe nous appelle de la Roche-sur-Foron. Bonjour Jean-Christophe.
Oui, et bien écoutez, je crois que votre invité a dit ce que je voulais dire, hein, notamment pour le financement du salafisme à l'étranger. Et en France, je ferai remarquer qu'il n'y a pas que le Qatar, il y a aussi l'Arabie Saoudite. Hein. On perd toute notre dignité en France pour quelques barils de pétrole avec ces pays féodaux qui condamnent les homosexuels, où il n'y a pas de liberté pour les femmes. Quand j'entends Christine Lagarde qui a déclaré lors du décès de l'ancien roi d'Arabie Saoudite qu'il avait fait beaucoup pour la cause des femmes. Enfin, c'est ahurissant que des hommes politiques aillent leur lécher les godasses à ce point-là. C'est absolument scandaleux. Hein. Et quand on voit ce pays qui fait étalage de son fric, qui inféode absolument tout grâce à l'argent du pétrole, que nous lui fournissons, en fait, parce que l'argent, d'où vient l'argent du pétrole?
Enfin, là, en l'occurrence, l'argent du gaz, Jean-Christophe. Mais on voit ce que vous voulez dire.
Des produits pétroliers, d'une manière générale, hein. L'argent des produits pétroliers, hein. Et que, alors on se réjouit qu'il ait racheté 24 Rafale. Ce que j'espère, c'est qu'il ne les mettra pas au service d'extrémistes, de mouvements extrémistes. Espérons que Qatar ne mette pas ses Rafales au service de mouvements extrémistes, comme il en existe. Hein.
On va essayer de...
200 000, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. 200 000 nationaux, c'est comme si en France, on achetait 8 000 Rafales. Hein. Est-ce qu'on aurait besoin de 8 000 Rafales? Si on achetait 8 000 Rafales...
Mais si on achetait 8 000 Rafales, monsieur Dassault, on serait content. Mais en tout cas, on a compris votre remarque, Jean-Christophe. Et du coup, je me tourne vers Maurice Leroy, qui est ami du Qatar, puisqu'il préside le groupe d'amitié France-Qatar. Comment peut-on être ami avec des gens pareils, nous demande Jean-Christophe.
Non, mais d'abord, je crois qu'il faut sortir des poncifs. Vous-même, vous avez corrigé l'auditeur qui a cessé de parler de pétrole, alors qu'Agnès Levallois a bien exposé au départ que c'est la troisième réserve de gaz. Donc, ça fait partie aussi des fantasmes. Hein. Toujours les trucs, golf, c'est forcément...
Attendez, mais Jean-Christophe,
le golf, c'est forcément le pétrole, etc. Bon, moi, je reviens plutôt sur l'intervention de Nicolas Beau qui...
Vous voulez pas répondre à Jean-Christophe?
Non, mais on n'est pas dans un dialogue. C'est intéressant qu'on échange. On est là sur un plateau en débat. Moi, je suis pas directeur des services secrets français ni machin, donc j'ai pas d'informations. Je suis député, je suis pas le ministre de la Défense, donc j'ai pas sur mon bureau tous les soirs les éléments pour dire. Je note une chose, c'est que Nicolas Beau a commencé en disant le Qatar, puis après, et je trouve que c'était mieux, je me permets de le dire, a dit mais certains financiers ou certaines familles, parce que là aussi il y a des confusions. En vérité, je suis membre de la commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale. Nous avons interrogé les ministres de la Défense successives, non seulement Jean-Yves Le Drian, mais grâce au livre de Nicolas Beau notamment, on a interrogé, parce que les groupes d'amitié, c'est pas des bénis, oui, les groupes d'amitié, ils posent des questions. Nous avons reçu le ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar la semaine dernière. Je vous assure que si vous aviez été dans la salle, vous auriez vu que les questions étaient claires et nettes de la part de tous les députés, y compris sur les droits de l'homme, sur les conditions de travail, sur les chantiers, etc. Oui,
par exemple,
on a posé ces questions.
Quelles questions précises?
Des questions très précises sur le droit du travail, le respect du droit du travail sur les chantiers, puisque vous savez qu'il y a des reportages, il y a des enquêtes qui ont démontré que malheureusement, je réponds à la question de votre confrère, que sur ces chantiers, il y avait des difficultés, et donc les députés, membres du groupe d'amitié, il y a deux semaines, ont posé toutes ces questions au ministre des Affaires étrangères. Ils l'ont fait librement. Les députés français, ils sont libres. Hein. Ils s'expriment très clairement
sur tous les sujets. Il n'y a pas besoin d'une commission d'enquête. Laissez-moi poser une question malgré tout. Lorsque l'on vous dit, par exemple, que ce pays a des lois homophobes qui stigmatisent et même plus l'homosexualité, lorsqu'on vous dit que la condition des femmes est évidemment une condition qui n'est pas désirable au Qatar, est-ce que vous faites de la réelle politique et vous dites qu'on va profiter de leurs investissements et puis essayer de faire évoluer les choses?
Attendez, on parle de groupe d'amitié. Au groupe d'amitié, c'est pas nous qui dirigeons et qui négocions les choses. Ce sont les gouvernements français successifs. Bon, et les relations avec l'État du Qatar, ils datent pas d'aujourd'hui, ils datent pas non plus de Nicolas Sarkozy, ils dataient d'avant et ils sont renforcés, y compris avec François Hollande qui s'y trouvait lui-même hier à Doha. Et pardon, mais François Hollande, il a sans doute plus d'éléments sur ce sujet que je peux en avoir moi-même. Donc c'est pas la question. Sur ces questions, quand on est ami avec un pays, à ses amis on dit les choses. D'ailleurs, quand on est intervenu, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé mon intervention. Voilà, je peux vous le révéler. Et les députés sont pluriels, hein. Vous pouvez demander à tous les députés qui étaient présents, toute sensibilité, ils vous le diront. J'ai commencé l'intervention au ministre en disant, monsieur le ministre, quand on est amis, on se dit les choses. Donc vous avez besoin de clarifier sur un certain nombre de sujets. Mais pour le reste, je tiens à le dire fermement, voilà, il n'y a jamais eu de preuve. Jamais de preuves. Il y a des déclarations de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, très précises sur le sujet. Vous pouvez les retrouver facilement. On n'a jamais apporté la preuve en France de financement par l'État du Qatar. Qu'il y ait eu des familles qatariennes, sans doute, mais jamais de la part de l'État du Qatar. C'est important à souligner, parce que c'est pas la
même
chose.
Vous l'avez souligné, Agnès Levallois.
Alors, il y a plusieurs choses, je pense, à dire. Il y a d'abord faire une différence dans les pays du Golfe entre l'Arabie Saoudite et les autres Émirats. Par exemple, sur la situation de la femme, la situation n'est absolument pas la même entre la situation de la femme en Arabie et au Qatar ou dans les Émirats. En Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas le droit de conduire, elles sont sous tutelle absolue. Dans le Qatar, au Qatar, elles peuvent conduire, elles peuvent voyager. Je ne dis pas que la situation est idéale, loin de là, mais il y a quand même une grosse différence à faire, me semble-t-il, entre les Émirats d'une façon générale et l'Arabie Saoudite sur ce point-là. Deuxième point sur la question du financement du terrorisme, qui est la question qui revient systématiquement lorsque l'on parle des pays du Golfe. Là aussi, il faut faire une distinction, me semble-t-il, entre l'Arabie Saoudite et le Qatar en particulier. J'allais dire qu'il y a une certaine répartition des rôles, finalement, dans le financement des groupes radicaux. L'Arabie Saoudite finance plus des groupes radicaux, alors que le Qatar, ce qui a été dit par Nicolas Beau, soutient les frères musulmans, qui est l'islam politique. Pour moi, je fais une différence entre les deux, peut-être à tort, mais moi, je fais une différence entre les deux, entre le financement des frères musulmans, et on l'a vu lors, effectivement, du déclenchement des révolutions arabes, où le Qatar a fermement soutenu l'Égypte, la Tunisie, et on a vu après ce qui s'est passé en Libye. Alors que l'Arabie Saoudite, elle, a beaucoup plus soutenu des mouvements radicaux, et sur la Syrie, on a vu exactement cette même répartition. La question entre, effectivement, est-ce que c'est le gouvernement, comme en Arabie Saoudite ou au Qatar, qui a donné l'impulsion, ou des grandes familles, on sait que ce sont des proches, mais dans ces systèmes-là, les relations sont quand même très proches entre ces grandes familles et l'émir ou l'émirat. Donc, il y a une distinction à faire, bien sûr, mais il n'en reste pas moins qu'il y a effectivement des questions importantes qui se posent sur le financement de ces groupes.
Et que nous posons, groupe d'amitié à l'Assemblée nationale, que nous avons encore posé récemment.
Et nous avons une question d'auditrice Christiane qui nous appelle de Meudon. Bonjour Christiane.
Oui, bonjour. Je vous téléphone, c'est surtout aussi adressé à monsieur le député, c'est pour signaler le décret 932 du 29 juillet 2009 qui exonère d'imposition sur la plus-value en France les investissements faits en France par les ressortissants qataris. C'est au titre de la double imposition, c'est-à-dire que les Qataris qui investissent en France ne sont pas imposables. Et Français qui investit, lui, il est imposable au moins à 45%.
Eh bien, effectivement, on va poser la question immédiatement à Maurice Leroy. Maurice Leroy, c'est
tout à
loi,
fait, madame. Vous avez. Non, c'est pas du tout étrange. D'abord, c'est une loi de la République. Elle a été votée. Et le décret que madame cite est un décret d'application d'une loi qui est une convention internationale sur les doubles impositions, qui a été votée effectivement par le Parlement et qui l'a été à l'unanimité. Il faut bien mesurer une chose, c'est que pour la première fois depuis 2009, le solde des échanges extérieurs entre la France et le Qatar, pour la première fois depuis plusieurs années, est excédentaire de plus de 800 millions d'euros. On devrait se réjouir que Qatar et le fonds d'investissement qatarien investissent en France, parce que ça veut dire que la France est attractive. Voilà. Et donc, évidemment, on parle tout le temps du PSG. Alors, c'est ce qui fait toujours les médias et les machins, le PSG. Vous-même, vous l'avez fait, c'est inéluctable.
Ah bon, bah, d'ailleurs, on l'aurait
pas fait, ça m'aurait déçu. J'aurais dit, tiens, pour une fois, on le fait pas. Donc, voilà. Non, nous sommes, le Qatar est le 57e client de la France. Soyons précis. Et nous sommes son 54e fournisseur. On est loin derrière en Europe. Le Royaume-Uni est tout juste à égalité ou à peu près avec l'Allemagne. Nous sommes loin derrière le Royaume-Uni.
Il ne faut pas se cacher que la France a fait d'énormes cadeaux fiscaux au Qatar en 2009. Alors, il est vrai que les socialistes ont voté la loi comme l'UMP. Tout le monde, unanime. Bon, pourquoi? C'est quand même un mystère. Mais alors, l'argument de la double imposition, il ne tient pas, parce que ce sont des investissements de l'émir ou du fonds souverain, et qu'il n'y a pas une énorme... L'émir ne s'auto-impose pas. Donc, c'est un cadeau qui est tout aujourd'hui dans cette période de difficultés budgétaires et proprement pour moi scandaleux. Et c'est quasiment...
Qu'est-ce qui cache,
le
selon
seul
vous,
pays,
Nicolas Beau?
De la part de Nicolas Sarkozy, il avait vraiment une co-gestion de la politique étrangère avec l'IMI. Il est très proche du Premier ministre de l'époque, HBJ, qui tenait le tir en caisse. Bon, et là, il y avait une espèce de connivence absolue, puisqu'ils ont été faire même la guerre ensemble. Bon, après, pourquoi les socialistes n'ont pas remis en cause cet avantage fiscal? Je ne sais pas. Et aujourd'hui,
on le sait, parce que ça s'explique. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, l'explique.
Il y a d'autres pays qui investissent en France.
Sur Laurent Fabius, qui est un grand ami du Qatar, et son meilleur ami, l'avocat Jean-Michel Darroy, son cabinet gère les intérêts du Qatar à Paris. Et deuxièmement, lorsque M. Sarkozy imagine de faire un fonds avec l'argent qatari, eh bien, Jean-Michel Darroy est une des quatre personnes avec Alain Minc et avec Nicolas Sarkozy à gérer ce fonds qui finalement n'a pas vu le jour. Donc, si vous voulez, de la part de Laurent Fabius qui est toutes les 24 heures à Doha, je veux dire, on ne pouvait pas imaginer que ça serait lui quand même qui remettrait en cause cet avantage fiscal.
Sincèrement, il n'est pas toutes les 24 heures à Doha. Thomas Chauvineau a néanmoins fait le tour du Qatar à Paris et on va suivre ce tour tout de suite après Brigitte Fontaine, la caravane aboie, les chiens passent, à moins que ce soit l'inverse.
Des silences, terre et ciel. Le désert, lui, loin de la mer. Tout en bas du mont Saint-Michel. sommet, j'avale un vent muet, grisant comme un vin de Toscane. Mon regard plonge dans la baie, je vois passer la caravane. Ils sont bien 50, les chameaux, les gens, sous la lune errante, là, se balançant. Le rythme royal me charme et m'appelle. Volant, je dévale les longues ruelles. Sur le sable doux comme un miroir, je cours vers eux tout en criant. Ils passent sans me voir, détachés sur le ciel d'argent. Seul, un homme au regard embrasé, fier comme un prince d'Erevan, me tend une rose embaumée et il rejoint la caravane. Je reste figé dans ma peau d'hermine, et puis je m'en vais vers ma limousine. Je pose la rose sur le siège avant, je marque une pause, je rentre à Dinan.
Service public sur France Inter. Il est question du Qatar et lorsque l'on parle du Qatar, on pense évidemment aux investissements qataris en France. Thomas Chauvineau, vous avez fait le tour du Qatar.
Voilà, je fais le tour du Qatar en France avec Nabil Enasri qui est doctorant et qui est auteur d'un livre comme Nicolas Beau qui s'appelle L'énigme du Qatar. Avec lui, en fait, on a fait la tournée des grands chèques, si on peut dire ça comme ça, en commençant par l'endroit le plus médiatique que le Qatar possède, dont on a déjà un tout petit peu parlé.
On est en face du Parc des Princes, qui est fermé évidemment, parce que c'est le matin, il n'y a pas de match. On peut peut-être essayer de passer la tête pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire pas grand-chose, hein. On peut voir qu'on est face à la tribune de Boulogne, mais c'est tout. Tout est bien fermé par des portes métalliques. Ça, c'est quoi? C'est le symbole qatari en France.
Alors, c'est vraiment le symbole du Qatar en France. C'est ce qui a permis au Qatar de se faire connaître auprès du grand public français. Et le Qatar va très vite identifier le sport comme un levier de visibilité international. C'est pour ça qu'ils vont agir sur l'organisation des grandes compétitions sportives, le mondial de handball de janvier dernier, le mondial de football en 2022, et donc également l'achat d'un club au niveau international pour se donner une vitrine de ce qu'on appelle cette diplomatie sportive. Puisqu'aujourd'hui, ce qui fait la force d'un État, c'est peut-être sa puissance militaire, mais c'est également sa puissance médiatique. On est dans la diplomatie du rayonnement, on est dans ce qu'on appelle le soft power. C'est donc fait à la fois en termes de gains de visibilité, mais également parce que l'une des principales critiques adressées au Qatar lors de l'attribution du mondial 2022, c'est un pays qui n'a pas de tradition footballistique. Et l'une des manières de se forger une tradition footballistique, c'est de prendre possession d'un grand club et d'avoir des titres. Donc là, on voit que les championnats français se succèdent. Mais le titre majeur que convoitent les Qataris, c'est vraiment la Ligue des Champions, puisque c'est le Graal, ce qui se fait de mieux dans le championnat mondial au niveau footballistique.
Bon, ben c'est mal engagé pour l'instant. En tout cas, on ne peut pas rentrer au Parc des Princes ce matin.
Malheureusement.
Bien. Quelqu'un ? CB uniquement, on va dire. Donc, on paye en CB maintenant, c'est place au Parc des Princes ?
Écoutez, pardon.
Alors, pour continuer notre tournée, on a donc pris le scooter.
C'est bon, vous êtes bien installé. Donc on va vers le printemps, là.
Parce que le printemps, c'est aussi un investissement du Qatar. Bon. C'est d'ailleurs, pour être tout à fait clair, c'est une société luxembourgeoise dont les capitaux sont qataris, qui a racheté le printemps, 2 milliards. Après le PSG, c'est une sorte de vitrine médiatique, mais c'est aussi un investissement pour ne plus dépendre uniquement non pas du pétrole, mais du gaz, comme vous le rappeliez, parce que c'est ça, finalement, qui intéresse le Qatar, cette dépendance, sortir de cette dépendance énergétique. Donc, après le printemps, on a repris le scooter vers, cette fois, un hôtel de luxe.
À droite pour le Royal Monceau.
Eh oui, le Royal Monceau, 5 étoiles. Et là, on a essayé d'entrer. Et vous allez l'entendre, ça n'a pas été facile. Au départ, le portier...
Pas laissé rejoindre votre chambre.
Je pense que c'est l'effet micro France Inter qui a dû peut-être impressionner. Ou l'effet Qatar, je ne sais pas. Au départ, le portier ne voulait pas. Ensuite, il a appelé le service de communication. Et là, une jeune fille est venue discuter avec nous.
Je
suis Thomas Chauvineau de France Inter.
Enchanté.
Bonjour. Nabil Nasri, spécialiste du Qatar.
D'accord, très bien.
On parle des investissements du Qatar en France et on se demandait si on ne pouvait pas juste jeter un œil au Royal Monceau pour voir à quoi ça ressemblait.
D'accord.
Comme c'est pour la radio, il n'y a pas de prise de vue.
Il n'y a pas de prise de vue.
Non, c'est juste du son pour voir à quoi ça ressemble.
Ah, parce que vous n'êtes jamais rentré ?
Eh ben non.
D'accord, ben oui, on va rentrer.
C'est possible.
Sûr,
ouais, super.
Avec
donc on a même pas reconnu.
Super, on a pu rentrer. Alors là, en effet, c'est génial. Designé par Stark, placage chaîne, lustre, enfin, deux restaurants, une librairie spécialisée dans l'art, des nuits à 1000 euros. Il y a même un cinéma qu'on n'a pas eu le temps de visiter parce qu'une autre jeune femme, moins contente, celle-là, est venue nous raccompagner gentiment vers la sortie.
Vous aviez rendez-vous, messieurs ?
Non, pas du tout. On vient comme ça au débeauté. C'est plus amusant.
Oui, je vois ça. En quoi on peut vous aider ?
En fait, on est en train de faire un reportage sur le Qatar à Paris.
Oui.
Et donc, on visite tous les lieux un peu emblématiques.
Peut-être plutôt prendre rendez-vous avec notre directeur ou des choses comme ça.
Bah, maintenant qu'on est là, on est là.
Oui, mais non. On est navré, mais non.
Bon, bah, on est navré aussi, alors. On a quand même réussi à rentrer un petit peu. C'est pas mal, on n'aura pas vu la salle de cinéma, tant pis. Bonne journée, alors.
Merci. Merci, bonne journée, au revoir.
C'est voilà, vrai, vous n'êtes pas organisé, hein, vous prendriez rendez-vous avec le Qatar, il vous recevrait. Hein.
En tout cas, est-ce qu'on serait fait virer de la même façon si l'hôtel avait appartenu, je ne sais pas, à la Belgique, par exemple ? Impossible de le savoir. Mais tout ça fait dire à notre interlocuteur, Nabil Nasri, qu'il y a quand même, vis-à-vis du Qatar, des suspicions.
Alors là, on est vraiment dans ce qu'on peut surnommer parfois le Qatar bashing, c'est-à-dire cette propension de certaines élites, voire même certains médias, à pourfendre le Qatar et parfois le pourfendre de manière, j'allais dire, presque injuste. Au niveau européen, le Qatar investit davantage et beaucoup plus en Grande-Bretagne qu'en France. Le maire de Londres appelle les investisseurs qataris à poursuivre leur démarche parce que, évidemment, ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse. Alors qu'en France, on est plus sous une stratégie craintive de se dire attention, voilà un émirat. On a l'impression que c'est un investissement qui n'est pas neutre, qui n'est pas qu'économique et qu'il a une volonté peut-être d'idéologie, voire même d'invasion, on va dire, islamique. Mais là, on est plus, de mon point de vue, dans le fantasme que dans la réalité. Les investisseurs qataris sont d'abord des investisseurs. Ils veulent une rentabilité.
Il y a aussi la crainte des investisseurs chinois. Est-ce que c'est la même pour vous ?
C'est un petit peu la même, je pense. C'est-à-dire qu'il y a aussi une sorte de décrochage de la France au niveau international. On ne fait plus partie, finalement, des 5 plus grands de ce monde. Donc, on a une forme, là encore, de panique identitaire qui fait que la France, qui était, à une certaine époque, l'un des moteurs de la marche du monde, se trouve reléguée, surtout aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, où on a l'impression qu'on n'a plus tellement notre place. Et le fait de se faire racheter, le mot est très fort, on ne parle pas d'investissement très souvent, mais de rachat, ça veut dire beaucoup de choses.
Voilà. Nabil Nasri, qu'on vient d'entendre, a fondé notamment l'Observatoire du Qatar. Alors, c'est un personnage qui est controversé. Certains le disent proche des frères musulmans. D'autres y voient un VRP des intérêts du Qatar. Il ne me semble pas, en tout cas, que dans son discours, il y ait eu du prosélytisme.
Nicolas Beau, vous en pensez quoi ? Puisque lorsqu'on évoque les journalistes qui font du Qatar bashing, intitulé un livre « Le vilain petit Qatar », quand même, vous deviez vous sentir un peu visé.
Alors, ce qui est amusant, le Royal Monceau, vous avez été refoulé, c'est là que Manuel Valls, en janvier 2012, rencontre l'ambassadeur du Qatar, juste avant la présidentielle, envoyé par François Hollande pour préparer l'avenir. Bon, c'est juste... Et non, et Nasri, c'est évidemment, ils en cachent pas, il était extrêmement proche des frères musulmans, et c'est là le droit. Tariq Ramadan aussi, l'UOIF, l'Union des Organisations Islamiques de France, qui tous les jours est l'interlocuteur du ministère de l'Intérieur, est aussi proche des frères musulmans, ça, pourquoi pas. Et qu'il soit proche du Qatar, bon, c'est évident.
Qatar, est-ce que ça veut dire par exemple que le Qatar finance des instituts d'études ?
Ah ben oui, naturellement, Tarek Ramadan, qu'on voit beaucoup, etc., est financé par le Qatar. Il y a une fondation là-bas, et Nasri prépare des doctorats aussi, financés par le Qatar. Mais donc ça me paraît effectivement évident.
C'est mieux, effectivement, de le préciser. Nous avons,
et quant à sa diplomatie du rayonnement, il parle d'une diplomatie du rayonnement à propos du PSG. Bon, sur le foot, il faut quand même rappeler, on en a parlé tout à l'heure, la réalité de vécu par les travailleurs immigrés, c'est-à-dire 50 à 100 euros par mois, le passeport confisqué, à la moindre velléité de protestation, ils sont expulsés, enfin, je veux dire, contre tous les droits humains, contre toute cette espèce d'esclavage moderne. Alors, je ne sais pas de quel rayonnement parle M. Ennasri.
Nous avons Patricia qui nous attend au standard. Patricia nous appelle d'Orléans. Bonjour Patricia.
Oui, bonjour.
Nous vous
bonjour
écoutons.
Monsieur le roi et messieurs de la radio. Écoutez, Thomas Chauvinot vient exactement de me prouver, enfin à moi, ce que je pense depuis longtemps. Ne pensez-vous pas que tous ces investissements et tous ces achats, effectivement, de Rafale et autres, c'est une façon d'avoir une mainmise sur l'Europe. Je parle de l'Europe, là, je parle même pas de la France, parce que bientôt, nous n'aurons plus d'hôtels, plus de monuments, plus de stades de foot, plus d'aéroports, etc. Et oui, toutes ces prises de pouvoir financières me font bien plus peur que si c'était des Chinois, parce que je pense quand même que tout ça, je ne parle pas d'islamisation, je fais bien la différence, mais je pense que ce golfe persique, tous ces musulmans veulent prendre la main comme ça sur l'Europe en passant par la finance. Et après, en fin de compte, ils seront rois aussi chez nous. Voilà.
Merci pour votre commentaire, Patricia. Agnès Levallois.
Alors, je crois qu'il faut quand même comprendre pourquoi le Qatar investit, pas simplement en France. En France, il investit très peu. Il faut relativiser les choses par rapport à la Grande-Bretagne, par rapport aux investissements en Asie, aux États-Unis. Donc, il faut absolument relativiser la place des investissements du Qatar en France. Ils existent, bien évidemment, mais nous ne sommes pas la destination privilégiée des investissements du Qatar. Le Qatar, comme on l'a dit tout à l'heure, est un tout petit pays et qui dépend du gaz et qui est donc obligé de préparer l'après-gaz, le jour où il y aura plus suffisamment de gaz. Donc le Qatar
oui,
est entré
pas changer la bouteille.
Absolument, dans une stratégie du coup d'investissement pour assurer le devenir de cet émirat dans le cadre de l'après-Qatar. Et une autre chose qui est essentielle pour comprendre la stratégie du Qatar, c'est que le Qatar investit dans le monde entier, donc pas simplement en France, parce qu'il a besoin de garanties de sécurité. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que le Qatar est un État tout petit, et qui se sent en permanence en danger à cause de sa position dans le golfe arabo-persique, avec d'un côté l'Arabie Saoudite et de l'autre côté l'Iran. Et donc le Qatar, en ayant ses investissements en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis, s'achète ce que j'appelle une assurance vie, pour que le jour où il sera menacé, où il se sentira menacé par ses voisins qui sont encombrants, il pourra faire appel aux pays avec lesquels il a investi, avec lesquels il a signé des accords de coopération stratégique, militaire ou autre. Donc c'est un élément pour moi essentiel pour comprendre le Qatar aujourd'hui.
On écoute Robbie Williams, Mr. Bojangles, et tout de suite après, Maurice Leroy nous expliquera pourquoi il faut accepter ces investissements selon lui.
Jangles and he'll dance for you in worn out shoes, with silver hair and ragged shirt, baggy pants. He would do the old South shoe. He would jump so high, jump so high, and then he'd lightly touchdown. Told me of a time he worked with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is Doug and he? They would travel about, but his dog up and died. said I dance now and every chance in honky tonks for my drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. You see sunlight, I drink some beer. Then he shook his head. Mr. Bojangles calling Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, dance, please dance. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, 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 please dance.
Service public sur France Inter, les questions du Qatar, et je dois dire que sur Internet et également sur Twitter, le Qatar est principalement mis en cause par nos auditeurs. Maurice Leroy, vous qui présidez le groupe d'amitié France-Qatar, comment défendre le Qatar ?
Non, le sujet, c'est pas de défendre ou d'attaquer le Qatar, c'est de, comme l'a très bien fait Agnès Levallois à l'instant, c'est d'être objectif et de regarder la situation telle qu'elle se présente. Voilà. Le Qatar investit en France, on devrait être, le Qatar ou la Chine ou d'autres pays, on devrait être très heureux de ces investissements. Investir, ça signifie pas qu'on perd notre identité nationale, notre indépendance, etc. Ça n'a pas de sens.
Ça signifie d'ailleurs, qu'on est quand même regarde... en partie sous la coupe d'un pays. Non, si par exemple la Syrie, la Corée du Nord investissaient en France...
Écoutez, les investissements sont... C'est 35% au Royaume-Uni. Et il vient à l'idée de personne. D'ailleurs, je suis persuadé que si on allait au Royaume-Uni, si on se transposait, voilà, on fait Monsieur Spock, et on se transpose, on se téléporte au Royaume-Uni, dans l'équivalent de France Inter, et on verra qu'on n'a pas de Qatar bashing, ou on n'a pas d'émission de ce genre. Donc, voilà, enfin, j'en ai pas connaissance.
Donc les investissements, pour vous, c'est neutre.
Non, mais non, c'est jamais neutre. Une petite précision, c'est que des hommes d'affaires ou des responsables des grandes entreprises dans lesquelles le Qatar a investi, disent que le Qatar n'intervient pas dans la définition de la stratégie de ces grosses entreprises dans lesquelles il intervient, parce que ce qui l'intéresse, lui, c'est de récupérer dividendes. Voilà.
Donc, en termes... Enfin, je veux dire, c'est très important. C'est pas seulement le Rafale. Le Rafale, c'est toujours impressionnant parce que c'est aussi médiatique. C'est aussi médiatique que le PSG. Mais enfin, il y a les investissements de recherche et développement. Tout ça, ce sont des emplois.
On a compris effectivement que vous les défendiez. Nous avons Bernard, au standard. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour.
Votre question rapidement, Bernard.
Oui, bonjour à tous. Justement, je voudrais aller contre ce bashing contre le Qatar. Et moi, je parle d'expérience, puisque mes enfants, ils sont depuis 2002, donc ça fait maintenant 12 ans, 13 ans. Et d'autre part, mes petits-enfants ont fait leurs études au lycée et ensuite dans les universités américaines. Alors c'est vrai que c'est pas... Mais la vie est tout à fait possible et tout à fait simple, je dirais, au Qatar, que je fréquente régulièrement. Et je ne vois pas pourquoi on se battrait contre les investissements alors qu'on en a tant besoin pour notre industrie.
Et vous en avez une bonne image, Nicolas Beau.
Deux mots. Le lycée français là-bas, c'est le lycée Voltaire. Mmh. Bon, et ce lycée Voltaire, trois proviseurs ont été successivement... chassé du Qatar. Pourquoi ? Parce que c'est un lycée qui se permettait d'expliquer à des enfants et des jeunes entre 10 et 15 ans qu'il existait plusieurs religions. C'était trop et c'était repris en main par le gouvernement qatari. Bon, et deuxième chose, effectivement, il y a des expatriés au Qatar, mais il y en a un aujourd'hui qui est en prison, simplement parce qu'il est accusé par son partenaire qatari d'avoir fait un chèque sans provision, dans des conditions épouvantables. Sa femme se bat et François Hollande, en allant là-bas, a fait savoir qu'il ne parlerait pas du cas de ce chef d'entreprise. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui avec un gouvernement de gauche qui met en avant des valeurs humanistes et des valeurs anti-islamistes et ici à Paris, mais à Doha apparemment il est plus conciliant avec des gouvernements autocrates.
Un dernier auditeur, Gérard, qui nous appelle d'Auvergne. Gérard, rapidement, nous écoutons votre remarque ou votre question.
Oui, bonjour France Inter, bonjour Guillaume. Écoutez, je vais essayer d'être rapide. Donc j'habite en Auvergne, à côté d'une petite ville où il y a une maroquinerie qui sous-traite 8 tons, les fameux sacs. Et cette entreprise a été rachetée en grosse partie par les Qataris. Et je connais bien des gens, notamment des femmes. Et depuis que ces gens-là ont eu la même mise sur cette entreprise, eh bien, elles sont harcelées. On essaye de les pousser vers la sortie. Et ne serait-ce qu'au niveau vestimentaire, eh bien, elles ont des restrictions. Voire elles ne peuvent plus porter de décolleté ou de jupe un peu courte. Et je voulais ajouter aussi que depuis, il ne faut pas oublier quand même que l'ancien gouvernement, à savoir le président Sarkozy, a fait il a fait des avantages et que maintenant, pour la France, pour le Qatari, ben la France est devenue un paradis fiscal.
Effectivement, voilà. On a parlé des avantages fiscaux sur cette usine qui fabriquerait des sacs Vuitton. Est-ce que l'un d'entre vous a des informations particulières, Agnès Levallois?
Non, j'en ai pas du tout d'informations. Entendu parler.
Voilà. En Corrèze, où effectivement les Qataris ont investi. Et même,
évidemment, ils investissent en Corrèze.
Je n'ai pas l'histoire du
Hollande. Alors ça, oui, sur ce que dit le directeur, je ne sais pas. Mais c'est sûr que même François Hollande avait cité cette entreprise dans ses premières interventions dans la campagne présidentielle. Et dans son premier voyage aux États-Unis, Valérie Trierweiler avait apporté un sac venant de cette entreprise. Bon, mais là, je rejoins M. Leroy. C'est bien que le Qatar investit dans des entreprises françaises alors qu'on manque d'argent pour les entreprises françaises. Ça, je pense qu'on peut pas le leur reprocher.
Maurice Leroy, un mot de conclusion.
Moi, je dirais à cet auditeur, nous sommes en France. Il y a un code du travail, il y a une législation, et il y a des tribunaux, il y a des institutions qui permettent de faire respecter le droit du travail. Donc encore une fois, je crois qu'il faut qu'on cesse avec, parce que c'est pas que le Qatar bashing, il y a le Qatar bashing, mais il y a le chinois bashing, il y a plein de bashing. En France, on a quand même un truc curieux, c'est que quand des investisseurs étrangers viennent en France, alors qu'on devrait se réjouir de l'attractivité de notre pays, on a ce sentiment bizarre qu'on a l'impression qu'on est racheté. C'est quand même quelque chose qui est curieux, alors que notre indépendance et notre souveraineté n'est absolument pas en cause.
Un mot de conclusion, Agnès Levallois.
Oui, je dirais que le Qatar aime bien tout ce qui est clinquant et rachète tout ce qu'il peut racheter et qui est clinquant, ça c'est un élément important, mais que le Qatar aujourd'hui, me semble-t-il, est en train de se prendre les pieds dans le tapis, c'est-à-dire qu'il a des ambitions très importantes et beaucoup trop importantes par rapport à la capacité humaine de gérer ce rayonnement qu'il entend, et avec en plus une question de rivalité avec Dubaï, parce qu'il y a une vraie rivalité entre Qatar et Dubaï qui explose, dont on parle beaucoup, le Qatar souhaite absolument qu'on parle autant de lui, et donc il se prend aussi un peu les pieds dans le tapis à vouloir tout faire, mais pour tout faire, il faut quand même avoir des moyens humains pour mener toute une stratégie, une politique, et on s'aperçoit que par moment, c'est un peu compliqué.
Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin, merci aussi à Thomas Chauvineau. Le vilain petit Qatar, c'est le livre de Nicolas Beau et Jacques-Marie Bourget. Le Qatar peut tout acheter, sauf la bande originale, parce que la bande originale, c'est trop cher, Nagui.
Non, c'est abordable. Non. Vous savez.
C'est abordable, c'est combien?
Demandez la direction.
C'est combien? Parce que si, peut-être.
Je ne suis pas à vendre, mais je suis à louer.
D'accord.
Le dis au Qatar, s'il nous écoute. C'est bon, quand il va.
Nagui à louer.
Mais tout confort, oui, comme le poulet. C'est Jean-Pierre Coff, justement. Tiens, on va parler gastronomie et de toute sa vie, une vie de Coff. C'est Jean-Pierre qui est notre invité dans cette bande originale, mon cher.
Eh ben, on va l'écouter tout de suite.
Et il parlera des Qataris aussi.
Le flash. À tout de suite, Nagui.